Les aventures de Tom Sawyer par Mark Twain, première cassette, deuxième face, page 21. Tom reprit son pinceau et se remit au travail. Justement, Ben Rogers, B-E-N, plus loin, R-O-G-E-R-S, débouchait là-bas au coin de la rue. Entre tous ses camarades, c'était celui dont il redoutait le plus les railleries. À l'allure de Ben, on devinait tout le plaisir qu'il se promettait de sa journée. Tout en grignotant une pomme, il fredonnait une sorte de murmure plus ou moins mélodieux, entrecoupé de bruits de cloches émis d'une voix grave. Ben jouait le rôle d'un bateau à vapeur rentrant au port. Comme il approchait, il ralentit l'allure, suivit le milieu de la chaussée comme un chenal, pencha vers tribord, vira pesamment avec force détails de circonstances, car il personnifiait le grand Missouri et n'oubliait pas qu'il avait 9 pieds de tirant d'eau. Il était à la fois le navire, le capitaine et l'appareil de signalisation aux machines. Tantôt sur sa passerelle, le capitaine donnait des ordres, tantôt l'équipage les exécutait. « Stop, drelin, drelin, din, din !» Le navire courait sur son air et se rangeait lentement le long du quai, c'est-à-dire en l'espèce du trottoir. « Drelin, din, din !» Le tout accompagné de gestes appropriés. « Machine arrière à bâbord, drelin, din, din !» De sa main droite, il décrivait de grands cercles, car il s'agissait d'une roue de 7,50 m de diamètre. « Machine arrière à bâbord, drelin, din, din !» À son tour, la main gauche décrivait des cercles. « Tribord, stop, drelin, din, din !»« Bâbord, stop, en avant tribord !»« Tribord, stop, laisse arriver !»« Drelin, din, din !» « Jette la mare, dépêchons-nous un peu, accoste le quai, lâche la vapeur, drelin, din, din !» Sans se soucier le moins du monde des évolutions du pseudo-bateau, Tom continuait à badigeonner. Ben le regarda un instant.
« Eh, dis donc, te v'là marrer aussi, toi ?»
Pas de réponse. D'un œil d'artiste, Tom examine l'effet de son dernier coup de pinceau. Autre coup de pinceau suivi du même examen. Ben s'approche de lui. À le voir grignoter sa pomme, Tom sent l'eau lui venir à la bouche. Mais imperturbable, il continue.
« Dis donc, vieux, tu travailles ? » demanda Ben.
Tom se retourne brusquement.
« Ah, c'est toi, Ben. Je t'avais pas vu. Ouais, nous allons nous baigner. Tu viens pas ? Non, tu aimes mieux travailler, je vois ça. »
Tom dévisage l'autre un instant et dit « Mais qu'est-ce que tu appelles travailler ?»«
Ben, c'est pas du travail, ça ?»
Tom donne un coup de pinceau et négligemment répond
« Oh, oh, peut-être ben que oui, peut-être ben que non. Tel que c'est, moi, ça me va.
Ben, tu vas pas me faire croire que tu aimes ça. »
Nouveau coup de pinceau.
« Que j'aime ça. Eh ben, pourquoi pas ? On n'a pas tous les jours la chance de badigeonner une clôture. »
La question se présentait sous un nouvel aspect. Ben cessa de mordiller sa pomme. Tom promenait son pinceau de gauche à droite et de droite à gauche, se reculait pour juger de l'effet, ajoutait une touche ici ou là, se reculait à nouveau. Ben suit des yeux chacun de ses mouvements. Il s'intéresse, il se passionne. Il finit par dire « Dis donc, Tom, « laisse-moi badigeonner un peu, moi aussi. » Tom hésite. Tom est sur le point de consentir, mais au dernier moment, il se reprend.
« Non, je peux pas faire ça, Ben. Vois-tu, Tante Polly a des idées très arrêtées à propos de cette clôture. Surtout de ce côté, sur la rue. Oh, si c'était du côté du jardin, je ne dirais pas non, ça lui serait égal, à elle aussi. Mais elle est très exigeante. Il faut que ça soit bien fait. Et il n'y en a peut-être pas un d'entre nous sur 1000, que dis-je, un sur 2000 qui ferait ça comme il faut.
Allons, allons, laisse-moi essayer rien qu'un petit peu. Si j'étais à ta place, je te laisserais faire, Tom.
Ben, moi je voudrais bien, foi d'Indien, mais tant de poli.
Enfin voilà, Jim a demandé à le faire.
elle n'a pas voulu. Sid a demandé à le faire. Elle n'a pas voulu. Tu vois où j'en suis? Si tu te mets à badigeonner la clôture, suppose qu'il arrive quelque chose. Je serai dans de jolis draps. Oh, sois tranquille, Tom. Je saurais m'y prendre. Laisse-moi essayer. Tiens, je te donnerai la moitié de ma pomme. Bon, ben voilà, après tout, non. Oh non, non. Non, Ben. J'ai peur que... Ben, je te donnerai tout ce qui reste de ma pomme. Tom abandonna son pinceau comme à contre-cœur. Il était ravi du succès de sa manœuvre. Et tandis que l'ex-grand Missouri peinait et transpirait au soleil, l'artiste en retraite, assis à l'ombre sur un tonneau, les jambes ballantes, grignotait sa pomme tout en méditant le massacre d'autres innocents. Les victimes ne manquaient pas. Tour à tour, elles se présentaient, d'abord dans l'intention de se divertir, puis elles restaient pour badigeonner. Avant que Ben en eût assez, Tom avait négocié sa succession en faveur de Billy Fisher, B-I-2-L-Y, plus loin F-I-S-H-E-R, moyennant un cerf-volant en bon état de réparation. Après Billy Fisher, Johnny Miller, J-O-H-2-N-Y, plus loin M-I-2-L-E-R, se fit adjuger la place moyennant un rat mort et la ficelle qui servait à le traîner, et ainsi de suite les uns après les autres. Au milieu de l'après-midi, Tom, qui le matin était pauvre comme Job, regorgeait de richesses. Outre le butin déjà mentionné, il comptait au tableau 12 billes, l'embouchure d'un sifflet, un morceau de verre bleu, un canon en bois, une clé qui n'ouvrait rien, un bout de craie, un bouchon de carafe, un soldat de plomb, 2 tétards, 6 pétards, un chat borgne, un bouton de porte en cuivre, un collier de chien, sans chien, un manche de couteau, 4 morceaux de pelure d'orange et un châssis de fenêtre hors d'usage. Tom s'était bien amusé. Il avait passé un après-midi délicieux à ne rien faire. De nombreux camarades lui avaient tenu compagnie et la clôture était revêtue de 3 couches de badigeon. Si sa provision de lait de chaux n'avait pas été épuisée, il aurait mis en faillite tous les gamins du village. Tom se dit en lui-même qu'après tout, l'existence était fort supportable. Sans s'en douter, il avait découvert une grande loi sociale. À savoir que pour amener un homme ou un enfant à désirer une chose, il n'y a qu'à lui rendre cette chose difficile à atteindre. Si Tom avait été un profond philosophe, comme l'auteur de ce livre, il aurait compris que le travail consiste en une tâche que l'on est obligé d'accomplir, alors que le plaisir consiste en une occupation à laquelle on n'est pas obligé de se livrer. Et ceci l'aurait aidé à comprendre pourquoi la fabrication de fleurs artificielles, par exemple, est un travail, alors que l'ascension du Mont Blanc est un plaisir. Pendant l'été en Angleterre, certains services quotidiens de voyageurs, sur des parcours réguliers variant de 30 à 50 km, sont effectués par des voitures attelées de 4 chevaux. Ce sont des gens riches, abondamment pourvus des biens de ce monde, qui les conduisent, parce que ce privilège leur coûte une somme considérable. Mais si on leur offrait de les payer pour assurer ce service, ils considéreraient cela comme un travail et dédaigneraient de s'y adonner. Tom réfléchit un instant au changement qui venait de se produire dans sa situation sociale, puis il se dirigea vers le quartier général pour s'y faire porter rentrant. Chapitre 3. Mars et Vénus. Je te rappelle que pour les anciens, Mars était le dieu de la guerre et Vénus la déesse de l'amour. Tom se présenta à Tante Polly, qui était assise près d'une fenêtre ouverte, dans une grande et belle pièce qui lui servait à la fois de chambre à coucher, de salle à manger et de bibliothèque. Dans la paisible tranquillité d'une journée d'été, le parfum des fleurs, le bourdonnement des abeilles aidant, la vieille dame somnolait sur son tricot. Elle n'avait pas d'autre compagnie que son chat, lequel était lui-même endormi sur ses genoux. Elle avait relevé ses lunettes sur son front. Dans son idée, Tom avait dû déserter depuis longtemps. Elle fut tout étonnée de le voir se présenter avec sa désinvolture habituelle et lui demander « Maintenant, est-ce que je peux aller jouer, ma tante ?»«
Déjà ? Où en es-tu ?»«
J'ai fini, ma tante. »«
Ne mens pas, Tom, tu sais bien que je n'aime pas ça. » »«
Ma tante, je ne mens pas. C'est fini. » Tante Polly n'en croyait pas ses oreilles. Elle sortit pour s'en rendre compte par elle-même, se disant que si seulement l'affirmation de Tom se révélait vraie dans la proportion de 25%, ce sera déjà inespéré. Et elle fut bien obligée de se rendre à l'évidence. La palissade tout entière avait reçu non pas une couche, mais trois couches de lait de chaux, et qui plus est, le badigeon s'étendait même sur une partie du trottoir. Dès lors, l'étonnement de la vieille dame ne connut plus de bornes. Elle lui donna libre cours.
« Ah, ça par exemple, il n'y a pas à dire, Tom. Tu peux travailler quand tu veux. »
Elle trouva qu'elle en avait trop dit.
« Mais je dois dire que ça ne t'arrive pas souvent. Eh bien, va jouer. Et n'attends pas la fin de la semaine pour revenir où tu auras affaire à moi. »
Elle était tellement ébahie du résultat qu'elle ramena Tom avec elle jusqu'à l'armoire aux provisions, choisit une belle pomme et la lui donna, non sans tente toutefois agrémenter cette largesse d'un petit sermon en vue de démontrer à son neveu que sa pomme lui paraîtrait d'autant meilleure qu'il l'avait méritée comme récompense à la suite d'une bonne action. Et tandis qu'elle terminait son homélie par une citation appropriée de la Bible, Tom s'adjugea en cachette un gâteau supplémentaire. Puis il sortit. Au même moment, Sid gravissait l'escalier extérieur qui, derrière la maison, conduisait aux pièces du second étage. En un clin d'œil, Sid fut entouré d'une grêle de projectiles, et avant que Tante Polly, revenue de sa surprise, ait eu le temps de venir à son secours, 6 ou 7 mottes de terre avaient atteint leur but. Tom avait escaladé la clôture et avait disparu. Il y avait bien une grille, un portail, mais Tom était généralement bien trop pressé pour prendre le temps de passer par là. En révélant la supercherie du fil noir, Sid lui avait attiré de nombreux ennuis. Maintenant, justice était faite et Tom avait la conscience tranquille. Il fit le tour de la maison et s'engagea dans un sentier boueux qui passait derrière l'étable. Là, il était en sûreté. Il ne risquait plus d'être dénoncé ni puni. En hâte, il se dirigea vers la grande place du village où 2 armées de gamins s'étaient donné rendez-vous pour se livrer bataille. Tom était général de l'une des 2 armées et Joe Harper, H-A-R-P-E-R, son meilleur ami, commandait l'autre. Les 2 grands chefs ne daignaient pas combattre en personne. Tranquillement assis l'un près de l'autre sur une éminence, ils laissaient cela à leurs subordonnés et dirigeaient les opérations au moyen d'ordres transmis par leurs aides de camp. Le combat fut long et acharné. L'armée de Tom remporta une grande victoire. On compta les morts, on échangea les prisonniers, on convint du jour de la prochaine bataille. Les 2 armées formèrent les rangs et se séparèrent, et Tom rentra chez sa tante. Chemin faisant, il passa devant la maison de Jeff Thatcher, J-E-2-F, plus loin, T-H-A-T-C-H-E-R. Et là, vit dans le jardin une jeune fille qu'il ne connaissait pas. Une charmante enfant, aux yeux bleus, aux cheveux blonds divisés en 2 longues nattes. Elle portait une robe d'été avec des volants brodés. Tom, qui sur le champ de bataille venait de remporter un succès retentissant, succomba sans coup férir au jeu de l'amour. Une certaine Aimée Lawrence, A-M-Y, plus loin L-A-W-R-E-N-C-E, disparut de son cœur sans même laisser le moindre souvenir. Il avait cru l'aimer à la folie. Ce n'était pas de la passion qu'il avait pour elle, c'était de l'adoration. Et déjà, tout cela s'estompait dans le passé. Il lui avait fait la cour pendant des mois et venait à peine, il y avait 8 jours, de lui faire l'aveu de sa flamme. Pendant 7 brèves journées, il avait été le gamin le plus fier et le plus heureux du monde. En un instant, plus question de rien. Sa bien-aimée d'autrefois disparaissait de son cœur, comme un étranger quitte un salon, sa visite terminée. Il contempla ce nouvel ange d'un œil furtif, jusqu'à ce qu'il vit qu'elle l'avait remarqué. Dès lors, il fit comme s'il ne l'avait pas vu et se livra à toutes sortes d'excentricités en vue de provoquer son admiration.
Cela dura un certain temps. Tout à coup, au milieu d'une acrobatie dangereuse, il regarda de côté et vit qu'elle s'en retournait vers la maison. Tom se précipita vers la barrière et s'y accouda dans l'espoir que la jeune fille resterait encore un peu. Elle s'arrêta encore un moment sur les marches et se dirigea vers la porte. Comme elle mettait le pied sur le seuil, Tom poussa un grand soupir. Mais aussitôt, sa figure s'éclaira. Avant de disparaître, la jeune fille lui avait jeté une fleur par-dessus la haie. Tom courut et s'arrêta à un pas de la fleur. La main en auvant sur les yeux, il fit semblant de regarder vers le bout de la rue comme si quelque chose d'intéressant s'était passé de ce côté. Puis il ramassa un brin de paille, le fit tenir en équilibre sur le bout de son nez en penchant la tête en arrière. Ce faisant, il se rapprochait peu à peu de la fleur. Finalement, il mit le pied dessus. De ses orteils agiles, il la prit et disparut en sautillant derrière le coin de la rue pour une minute seulement, le temps de passer la fleur à une boutonnière de sa veste, près de son cœur, ou peut-être près de son estomac, car il n'était pas très fort en sciences naturelles et ne cherchait pas midi à 14 heures. Il revint et jusqu'à la tombée de la nuit recommença son manège devant la grille. Mais la jeune fille ne se montra plus, bien que Tom se berça de l'espoir que peut-être, derrière une fenêtre, elle l'avait regardé. Finalement, l'oreille basse, il rentra. Il avait des visions plein la tête. Pendant le dîner, il fut tellement excité que sa tante se demanda ce qui avait bien pu lui arriver. À propos du bombardement dont Sid avait été victime, elle lui adressa une sévère réprimande à laquelle il ne parut pas prêter la moindre attention. Sous le nez de sa tante, il essaya de lui voler du sucre et se fit taper sur les doigts. Il protesta. « Mais tante, quand c'est Sid qui en prend, vous ne dites rien. »
« Sid n'est pas aussi assommant que toi. Si je ne te surveillais pas, il y a longtemps qu'il n'y aurait plus de sucre du tout. »
Elle se dirigea vers la cuisine et Sid, fort de son impunité, étendit la main vers le sucrier comme pour narguer son frère qui avait bien du mal à se contenir. Les doigts de Sid glissèrent, le sucrier tomba et se brisa. Jubilation de Tom, à un tel degré qu'il y puisait la force de garder le silence. Il se promit de ne pas ouvrir la bouche lorsque sa tante rentrerait, de rester bien tranquille et de ne parler que quand elle demanderait qui avait fait le coup. Alors, quel plaisir n'éprouverait-il pas à voir ce frère modèle recevoir un juste châtiment ? Il était tellement excité qu'il tenait à peine en place lorsque la vieille dame revint et, contemplant le désastre, lança des éclairs de fureur par-dessus ses lunettes. Il se dit « Nous y voilà !» Un instant après, il était par terre. Une main vigoureuse se levait pour le frapper à nouveau. Tom s'écria « Mais pourquoi est-ce que c'est moi qui suis puni quand c'est Sid qui l'a cassé ?» La tante Polly s'arrêta perplexe. Tom escomptait un revirement de sa part. Mais quand elle recouvra l'usage de la parole, ce fut pour dire
« Après tout, tu n'es sûrement pas puni pour rien. Je parie que tu auras encore fait une sottise pendant que j'avais le dos tourné. »
Malgré cela, son sens de la justice n'était pas satisfait. Tante Polly aurait aimé réparer en disant quelque chose de gentil. Mais alors, ce quelque chose ne pourrait-il pas être interprété comme un aveu qu'elle avait eu tort ? La discipline en souffrirait. Elle garda donc le silence et se remit à vaquer à ses occupations. Dans un coin, Tom boudait en ruminant ses chagrins. Au fond, la tante Polly était en admiration devant lui. Il le savait et il en était très flatté. Mais il répugnait à faire le premier pas et était déterminé à repousser toutes ses avances. Il ne doutait pas qu'au milieu des larmes, un regard de tendresse ne lui fut adressé de temps à autre, mais il se refusait à en donner acte. Il se voyait déjà gravement malade, sa tante penchée sur lui et implorant un mot de pardon. Mais il se retournerait contre le mur et mourrait sans avoir prononcé ce mot. Alors, quel remords ne ressentirait-elle pas ? Et si on le rapportait de la rivière, noyé, les cheveux trempés, son pauvre cœur ayant à tout jamais cessé de battre?
Ah, comme elle se jetterait sur son corps, les yeux pleins de larmes, comme elle supplierait Dieu de lui rendre son tome, qu'elle promettrait de ne plus jamais, jamais gronder. Mais il demeurerait glacé, blême, immobile, enfin arrivé au terme de ses malheurs.
Ces divagations tragiques finirent par le mettre dans un tel état qu'il en avait la gorge serrée et qu'il faillit étouffer. Il avait les yeux pleins de larmes qui débordaient à chaque mouvement de ses paupières. Et il tenait tellement à ressasser ses chagrins qu'il se refusait à admettre aucune intervention, aucun apaisement venant de l'extérieur. Ce qui se passait en lui était sacré. Et quand revint sa cousine Marie, toute heureuse de se retrouver au bercail après un interminable séjour d'une semaine à la campagne, il se drapa dans une sombre mélancolie et sortit par une porte, alors que la lumière et la joie de vivre entraient par l'autre. Il se garda bien de se rendre aux endroits habituellement fréquentés par les jeunes de son âge et rechercha des lieux désolés, plus en harmonie avec son état d'esprit. Sur la rivière, un radeau lui parut propice à ses rêveries. Il s'assit le long du bord et regarda fixement le courant lugubre et monotone, souhaitant d'être noyé tout d'un coup, sans s'en apercevoir, sans avoir à passer par l'inconfortable succession d'épreuves voulues par la nature. C'est alors que lui revint en mémoire la fleur qu'il avait gardée depuis l'après-midi. Il la retourna, fripée, fanée, et elle ne fit qu'aviver la mère jouissance qu'il éprouvait à souffrir. La jeune fille aurait-elle pitié de lui, elle, si elle savait? Compatirait-elle et souhaiterait-elle de pouvoir lui passer les bras autour du cou et le consoler? Ou se détournerait-elle de lui, froide comme l'indifférent univers? Son imagination brodait sur ce thème qu'il tournait et retournait indéfiniment, jusqu'à ce que, l'ayant épuisé, il se leva, poussa un soupir et s'enfonça dans l'obscurité. Vers 9h30 ou 10h du soir, il se trouvait dans une rue déserte, devant la maison où habitait l'inconnu adoré. Il s'arrêta, l'oreille tendue, n'entendit rien. Au deuxième étage, une bougie projetait sa lueur triste sur les rideaux d'une fenêtre. Était-elle là? Il escalada la clôture, se fraya un chemin à travers les arbustes du jardin et s'arrêta sous la fenêtre éclairée qu'il regarda longuement et avec émotion. Puis il s'allongea sur le sol, couché sur le dos, les mains croisées sur la poitrine, tenant la pauvre petite fleur qu'elle lui avait donnée. C'est ainsi qu'il mourrait. Sous un ciel hostile, sans une main amie pour essuyer les sueurs mortelles de son front blême, sans la présence d'un visage aimé qui lui fît l'aumône de sa pitié au moment de la grande agonie finale. C'est là que sa Dulcinée le verrait, au moment où elle sortirait pour jouir de la clarté matinale. Verserait-elle une larme sur ce pauvre corps sans vie? Pousserait-elle un soupir à l'occasion de la fin brutale et prématurée de cette jeune existence, si pleine de promesses? Tout à coup, la fenêtre s'ouvrit. La voix criarde d'une servante profana le silence religieux. Un déluge d'eau glacée inonda le candidat au martyr, qui, comme mu par un ressort, se releva en faisant entendre un grognement inarticulé. On entendit dans l'air le sifflement d'un projectile, un bruit de verre cassé. Quelqu'un grommela une malédiction. Une forme indistincte sauta par-dessus la clôture et disparut dans l'obscurité. Peu de temps après, Tom, déshabillé, prêt à se mettre au lit, jetait à la lumière d'une chandelle un coup d'œil sur ses vêtements trempés. Sid se réveilla. S'il eut un instant la moindre velléité de faire de près ou de loin aucune allusion aux événements de la journée, ce qu'il lut dans les yeux furibonds de Tom lui fit juger préférable de s'en abstenir. Tom se coucha sans faire sa prière et Sid prit note de cette omission. Chapitre 4. l'école du dimanche. Je te rappelle que dans ce village vivent des protestants. L'école du dimanche, c'est en somme le catéchisme des protestants qui se déroule le dimanche, bien sûr. L'office religieux, ça n'est pas une messe, c'est essentiellement des cantiques que l'on chante et le sermon du pasteur, le pasteur étant pour les protestants à peu près ce qu'est le curé pour les catholiques. Le soleil se leva sur un monde paisible et éclaira le village de ses bienfaisants rayons. Après le petit déjeuner, la tante Polly s'acquitta de ses devoirs familiaux. Elle fit un commentaire de la Bible, où son originalité se donnait libre cours, et pour finir, lut un austère chapitre de la loi de Moïse, comme si c'était elle qui fût descendue du mont Sinaï pour apporter cette loi aux Hébreux. Puis Tom se saignit les reins, si j'ose dire, et se mit à l'œuvre pour étudier ses leçons. Sid savait les siennes depuis longtemps. Tom devait réciter au pasteur 5 versets de la Bible. Il choisit ceux du sermon sur la montagne parce que c'étaient les plus courts qu'il eût pu trouver. Il consacra toute son énergie à les apprendre par cœur. Au bout d'une demi-heure, Tom avait de ses leçons une idée générale assez imprécise, sans plus, car son esprit vagabond avait exploré tous les domaines de la pensée humaine et de leur côté, ses mains avaient trouvé en route de nombreux sujets de distraction. Marie prit le livre pour lui faire réciter ce qu'il avait appris. Il annonça. Bienheureux les pauvres, dit Marie. Oui, les pauvres. Bienheureux les pauvres. D'esprit, dit Marie. D'esprit. Bienheureux les pauvres d'esprit parce que le royaume, dit Marie, le royaume, ah oui, bienheureux les pauvres d'esprit parce que le royaume des cieux est à eux. Bienheureux ceux qui pleurent parce qu'ils, seront, S-E-R-O-N-T, dit Marie. Parce qu'ils seront... Mais pourquoi ne me dis-tu pas où ils seront, Marie? C'est pas gentil de ta part. Oh, voyons, Tom, dit Marie, tu crois que je fais ça pour te taquiner? Mais non, seulement tu ne sais pas ta leçon. Il faut recommencer à l'apprendre. Ne te décourage pas, tu peux très bien. Et si tu la sais, je te donnerai quelque chose que tu aimes bien. Oh, qu'est-ce que c'est, Marie? Dis-le-moi. Pas maintenant, Tom. Si je te dis que c'est quelque chose que tu aimes bien, c'est que c'est quelque chose que tu aimes bien. Bon, dit Tom, alors je vais m'y mettre. Et il s'y mit. Poussé autant par la curiosité que par l'appât du gain, il s'y mit tellement bien qu'il réussit. Marie lui donna un canif de quelques sous et Tom ne s'en tenait plus de joie. À vrai dire, le canif ne coupait plus guère, mais c'était bel et bien un canif, un véritable Barlow, B-A-R-L-O-W. C'est des couteaux aussi célèbres en Amérique que les Opinel en France. Avec tout ce que ce nom signifiait de sensationnel, quoiqu'il fût difficile de s'imaginer qu'on pût tirer profit de la contrefaçon d'une telle pacotille, à supposer qu'elle fût pire que l'original, enfin, c'est là un mystère. Et il en sera toujours, probablement toujours un. Et à l'aide de ce canif, Tom se mit en devoir de creuser des rainures dans la commode. Il allait s'attaquer au bureau quand, heureusement, on l'appela afin qu'il s'habillât pour aller à l'école du dimanche. Fin de la deuxième face de la première cassette, Les aventures de Tom Sawyer, par Mark Twain, page 36.